Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc la radio dispose d'un web chat. Donc utilisez votre navigateur web et connectez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat et rejoignez-nous sur le salon web. Nous sommes mardi 12 février 2019. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je m'appelle Frédéric Houchet, je suis le délégué général de l'April. Donc le site web de l'April, c'est april.org, A-P-R-I-L.org, et vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales, et toute autre information utile en complément de l'émission. Vous pouvez également nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, nous allons passer au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, intitulée « Pépites libres ». Donc normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
On se retrouve d'ici quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur le projet Software Heritage avec Roberto Di Cosmo qui est avec nous en studio. Donc bonjour Roberto.
Bonjour Fred.
Et en fin d'émission, nous parlerons du projet de loi pour une école de la confiance et des amendements proposant d'inscrire dans la loi la priorité au logiciel libre dans l'éducation. Et je salue à la réalisation de l'émission pour sa première, notre camarade Patrick Creusot sous la surveillance et l'aide d'Étienne Gonu, de Charlotte Boulanger et d'une autre personne dont je ne connais pas le prénom. J'en suis désolé. Alors tout de suite, nous allons passer au premier sujet, donc avec la seconde édition de la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, chronique qui s'appelle Pépites libres. Donc dans cette chronique, Jean-Christophe nous présente une ressource ou une licence libre, texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt soit artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Donc la chronique du jour, Jean-Christophe, porte sur le dessin animé de Nina Palais, Copier n'est pas voler.
Oui, en effet, dans ma chronique du mois de janvier, je vous invitais à découvrir la conférence « Un faible degré d'originalité » d'Antoine Defort, dont la vidéo est disponible sous licence libre. Parmi ses sources d'inspiration, j'évoquais Nina Palais. Et c'est sur elle que j'aimerais revenir aujourd'hui. Nina Palais est une artiste américaine, auteure de bandes dessinées et de dessins animés. J'ai donc choisi de vous parler d'un dessin animé de Nina Palais, Copier n'est pas volé, ou Copying is not theft, en anglais. Il s'agit d'une vidéo très courte, elle dure à peine une minute. De manière ludique et en chanson, Nina Palais dénonce l'amalgame entre le vol et la copie. En effet, le vol concerne des objets matériels, alors que la copie s'applique aux idées et aux œuvres de l'esprit, qui, elles, sont intangibles et immatérielles. Et c'est cette escroquerie intellectuelle que dénoncent les petits personnages de Nina Palais. Dans le Code pénal français, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est l'article 311.1. Donc le vol est une soustraction. C'est-à-dire qu'il prive sa victime de l'objet dérobé. Alors que pour la copie, c'est complètement différent. Copier, c'est multiplier. Je sais que le logiciel libre préserve vos libertés. Et je vous le dis. Alors nous sommes plusieurs à le savoir, sans que je sois privé de ma connaissance initiale. On voit bien qu'il n'y a pas soustraction. Les idées que je partage à travers cette chronique sont multipliées par le nombre d'auditeurs. Et en faisant le choix d'une licence libre pour ces émissions, Cause Commune encourage cette multiplication. Les héros du dessin animé de Nina Palais s'amusent à comparer le vol et la copie d'un vélo. En effet, dans leur monde immatériel, il est possible très facilement de faire des copies. Un simple coup de crayon, deux clics de souris et chacun peut enfourner une copie du vélo. Ils échappent à ce qu'on appelle la rivalité des biens matériels. C'est-à-dire le fait que chacun réalise une copie d'un objet nécessite une quantité importante de ressources et d'énergie. À l'inverse, depuis l'avènement d'Internet, la copie est grandement facilitée et son coût est devenu marginal. C'est un problème pour les défenseurs de l'ancien système, basé sur des rentes indexées sur le nombre de copies. C'est une formidable opportunité pour l'humanité. De plus en plus d'auteurs choisissent de partager leur travail sous licence libre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, copions et multiplions toutes ces pépites libres.
Alors merci Jean-Christophe. Donc ce dessin animé de Dina Palais dure à peu près une minute. Alors les références sont sur le site de l'April, avec la version originale donc, qui est en anglais. Une version française, il y a aussi un lien avec des versions modifiées, parce que dès le départ, Nina Palais, qui a diffusé ce dessin animé sous licence de mémoire CC BY-SA, donc Creative Commons partage à l'identique, a encouragé les personnes à faire des modifications, à mettre ses propres musiques. Donc il y a un certain nombre de versions modifiées avec des musiques assez sympas. Ces petits personnages rappelleront les cartoons qu'on connaît, avec notamment les petits personnages qui ont 4 doigts au lieu de 5 doigts. Et Nina Palais, ce dessin animé date de quelle époque? Est-ce que tu te souviens?
Alors c'est relativement ancien en fait, hein, ça date de 2010, ça a 10 ans, et effectivement, comme tu l'as dit, parce que Nina Palais a choisi une licence libre, ce dessin animé a fait l'objet d'un grand nombre de reprises, d'adaptations, de traductions d'abord, on le trouve dans un grand nombre de langues, donc on a mis le lien vers la version française, mais il y a aussi des versions en espagnol, en allemand. Il y a des adaptations avec d'autres styles de musique et on peut aussi télécharger les paroles, la partition, voilà. Donc c'est l'intérêt de la démarche de Nina Palais, c'est que toutes les briques de sa création sont libres et qu'elle encourage effectivement la création et la réutilisation. Et du coup, en 10 ans d'ancienneté de cette vidéo, il y en a eu un grand nombre.
Et c'est pas la première animation que Nina Palais a libérée, parce que en 2006 ou 2008 peut-être, elle avait distribué son dessin animé, donc beaucoup plus long, son animation Sita Sings the Blues, sous licence Creative Commons partagée à l'identique. Et en plus, elle avait explicitement interdit la pose de verrous numériques, hein, les DRM qu'on a déjà évoqués dans une précédente émission. Donc Nina Palais est quelqu'un, une personne qui vraiment milite depuis, on va dire, 2008-2010, au moins, pour un mouvement de ce qu'on peut appeler la culture libre. Et sur son site, donc ninapalais.com, on peut retrouver ces différentes productions, et en plus effectivement de ce dessin animé donc copié n'est pas volé dont tu nous as parlé. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Et quel est le lien en fait, enfin le lien avec le logiciel libre?
Alors en fait, c'est que ces licences libres qui sont aujourd'hui utilisées pour les œuvres de Nina Palais, donc les licences Creative Commons, sont en fait les héritières des licences du logiciel libre. C'est-à-dire que le libre est né avec le logiciel libre Richard Stallman en 1984. Et en fait, avec le temps, d'autres personnes ont eu envie de libérer d'autres ressources que des logiciels et se sont mis à réfléchir à des licences adaptées à des ressources non logicielles. Donc ça a donné la licence art libre, par exemple, qu'on utilise à l'April. Les licences Creative Commons, dont certaines sont considérées comme libres, d'autres licences, voilà, qui s'inspirent en fait des libertés du logiciel libre, mais pour les transposer à d'autres œuvres comme des textes, des images, des musiques ou des films et dessins animés dans le cas de Nina Palais.
Et le principe de non-rivalité que tu as expliqué et qui est explicité dans cette vidéo, évidemment, est valable en fait pour toute œuvre de l'esprit qui est une ressource en fait non exclusive et non rivale, c'est-à-dire que tout le monde a un libre accès à cette ressource non exclusive, et il n'est pas possible d'en exclure quelqu'un de l'usage d'une telle ressource, sauf évidemment à recourir soit à des principes juridiques, soit à des principes techniques, comme les mesures techniques qui des fois sont également protégées par des principes juridiques.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai appelé les tenants de l'ancien système, en fait, hein, qui, eux, utilisent des verrous juridiques et techniques pour lutter contre cette facilité de copie des ressources qui pose bien des problèmes à leur modèle économique archaïque.
Exactement. Et pour finir, je te laisserai le mot de conclusion, ça explique aussi pourquoi nous refusons le terme de propriété intellectuelle. Pour deux raisons principales, c'est que déjà le terme propriété intellectuelle laisserait supposer en fait qu'on peut réfléchir aux œuvres de l'esprit comme on peut réfléchir à des objets matériels, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas les mêmes propriétés, notamment ce que tu as expliqué, la non-rivalité. Et deuxième chose, c'est que le terme de propriété intellectuelle dans le droit englobe des domaines très différents qui vont du droit d'auteur au brevet et à plein d'autres choses qui sont très différents dans leurs principes. Donc c'est pour ça que nous, on préfère parler spécifiquement d'un droit particulier, par exemple le droit d'auteur, et que dans son ensemble, le terme propriété intellectuelle ne doit pas être utilisé parce qu'il pousse à réfléchir sur les œuvres de l'esprit comme on réfléchirait sur des œuvres matérielles. Est-ce que tu as une phrase de conclusion ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, cher Jean-Christophe ?
Oui, juste dire que Nina Paley a fait, donc, comme tu l'as dit, d'autres dessins animés, notamment un autre dessin animé de sensibilisation au libre qui montre à quel point toute œuvre créée s'inspire des œuvres existantes. Et donc voilà, je vous invite à découvrir ça. Et puis, dans l'attente, eh bien, je me mets en recherche d'une nouvelle ressource libre pour la chronique Pépilibre du mois prochain. Un grand merci et bonne écoute pour la suite de l'émission.
Merci Jean-Christophe et on se retrouve le mois prochain. Et donc, nous allons passer par une petite pause musicale qui va être relativement courte vu qu'elle dure 59 secondes. Et évidemment, c'est la bande-son donc, du dessin animé de Nina Paley, copié n'est pas volé.
Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing, that is what we call copying. Sharing ideas with everyone, that's why copying is fun.
Vous êtes de retour sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter la bande-son donc, du dessin animé de Nina Paley, Copier n'est pas volé, dont les références sont sur le site de l'April, donc april.org. Vous avez une page qui est consacrée à l'émission. Nous allons passer à notre sujet principal avec notre invité du jour, et c'est un grand plaisir de recevoir Roberto Di Cosmo pour parler de l'initiative Software Heritage, Archive mondiale du logiciel. Donc, rebonjour Roberto.
Bonjour Fred.
Alors Roberto, tu es italien installé en France, professeur d'informatique. Alors tu es un libriste depuis très longtemps, pense qu'on se connaît depuis une petite vingtaine d'années. Tu as été notamment rendu célèbre par un pamphlet en 98 qui s'appelle Piège dans le cyberespace. Et ensuite par un livre coécrit avec Dominique Nora la même année, donc 1998, qui s'appelait Le Hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft. Donc sur les problèmes posés par le monopole de Microsoft et aussi ses méthodes pour contrer toute concurrence et en premier le logiciel libre. Depuis septembre 2010, tu es directeur du laboratoire IRIL, donc Initiative pour la recherche et l'innovation sur le logiciel libre. Et depuis septembre 2016, tu es détaché auprès de l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et tu es directeur de l'initiative donc Software Heritage depuis 2016.
Oui, tout à fait.
Est-ce que cette présentation est correcte ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
On peut ajuster un petit peu les dates, mais c'est globalement, on y est. Quoi.
D'accord. Alors, avant de te laisser la parole et avant d'échanger sur le projet Software Heritage, je me suis dit, en préparant l'émission, évidemment, je me suis renseigné. Et en fait, j'ai trouvé finalement que le plus simple, c'était de prendre des extraits de l'annonce initiale de l'INRIA en 2016, donc, qui annonce Software Heritage, archive mondiale du logiciel. Donc, annoncé le jeudi 30 juin 2016, l'ouverture au public du projet Software Heritage. Donc, ce projet a pour objectif de collecter, organiser, préserver et rendre accessible à tous et à toutes le code source de tous les logiciels disponibles. Un enjeu de portée mondiale. Antoine Petit, PDG de l'INRIA, précise « Les logiciels sont aujourd'hui au cœur de toutes les activités humaines, de la médecine aux loisirs, des communications à l'agriculture ». Je poursuis la présentation du communiqué de l'INRIA. En construisant une archive universelle et pérenne du logiciel, Software Heritage vise à mettre en place une infrastructure essentielle au service de la société, de la science et de l'industrie. Software Heritage vise à construire à la fois une moderne bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, le référentiel unique du code source et un grand instrument de recherche pour l'informatique. Le projet va permettre de préserver et diffuser la connaissance aujourd'hui encodée dans le logiciel et augmentera notre capacité d'accéder à l'ensemble de l'informatique numérique, de l'information numérique. La base s'appuiera notamment sur une infrastructure distribuée, on y reviendra, de manière à garantir la robustesse et la disponibilité des données. Et lors de l'annonce, il y avait deux premiers partenaires internationaux qui s'étaient déjà engagés pour le soutenir le projet et l'aider à grandir, Microsoft, dont on vient parler, ainsi qu'une institution publique au service de la recherche scientifique, le DANCE, de la Royal Academy des Pays-Bas.
Tout à fait.
Alors, une fois cette introduction faite, j'ai envie de te poser la première question pour entrer un peu dans les détails. Quel problème cherche à résoudre l'initiative Software Heritage, lancée donc en 2016 par l'INRIA ?
Ben voilà, ben tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de passer échanger un peu sur ces sujets avec un peu de temps, un peu de calme. Ben, si tu es comme tous ces frères, ça fait longtemps qu'on s'occupe des logiciels libres, des codes, d'informatique en général. Donc, on a vu pas mal d'évolutions de notre société. Aujourd'hui, on est tous d'accord que le logiciel est quelque chose d'essentiel. Par contre, il faut dire que les personnes qui ne sont pas très techniques, donc ils ont plutôt l'habitude de voir les logiciels juste comme des outils. Hein, donc, tu prends ton téléphone, tu appuies sur une icône, ça lance une petite application, ça fait quelque chose. On peut envoyer des bisous à quelqu'un qu'on aime, on peut acheter quelque chose, on peut regarder une vidéo, c'est très, très bien. Par contre, on a tendance à ne pas savoir, à oublier que derrière ces logiciels qui sont exécutables, qu'on utilise comme des outils, en réalité, il y a tout un travail humain, des conceptions super importantes. Donc, ces logiciels ne tombent pas du ciel, ils sont écrits, c'est vraiment les termes qu'on utilise. Donc, on est développeur écrit du logiciel. On les écrit dans des langages de programmation en produisant ce qu'on appelle les codes sources. Et c'est les codes sources des logiciels qui contiennent vraiment la connaissance qui est nécessaire pour faire fonctionner ces logiciels-là.
Est-ce que tu peux expliquer peut-être juste ce qu'est le code source aux personnes qui nous écoutent ?
Voilà, donc, bon, on peut prendre l'analogie habituelle qu'utilise aussi Richard à un moment donné sous l'histoire des recettes des cuisines. Tu vois, par exemple, on peut voir, vous avez un gâteau que vous aimez beaucoup, alors ça c'est un peu l'exécutable, donc vous coupez les tranches et vous mangez, c'est super. Par contre, s'il faut les refaire, c'est un peu compliqué si on ne vous a pas expliqué comment on l'a fait. Et donc, en général, on s'échange des recettes des cuisines dans lesquelles on a dit dans quel ordre, on a mis quel ingrédient, pendant quel temps, etc., etc. C'est un peu la même idée. Ou aussi dans la musique, vous pouvez écouter de la musique qui est fantastique, mais pour la refaire, cette musique-là, normalement, on a besoin d'une partition. Et les partitions, ce n'est pas facile de reconstruire juste en écoutant la musique telle qu'elle est. Il faut savoir qu'en cas de logiciel, c'est un peu la même histoire, sauf que c'est énormément plus compliqué. C'est-à-dire à partir d'un binaire, reconstruire, c'est un binaire, c'est le terme qu'on utilise pour les exécutables, les applications qu'on voit, reconstruire ce qu'on appelle les codes sources, qui est la représentation du logiciel qui est préféré pour un développeur pour les modifier. C'est vraiment la définition formelle. C'est énormément difficile aussi en partie parce que très souvent, dans ces logiciels, on a plein de commentaires ou d'annotations qui sont faites pour les êtres humains, pour les relire et qui disparaissent.
Qui sont supprimées dans la phase de cuisson quelque part.
Voilà, la phase de cuisson, ça disparaît. On ne les retrouve pas dans l'exécutable qui tourne sur la machine. Donc, on a complètement perdu de l'information. Donc, ça, c'était un peu les préalables parce qu'effectivement, on parle souvent des logiciels, mais on oublie que ces logiciels sont fabriqués à travers une forme qui est ces codes sources, qui est vraiment précieuse. C'est une forme d'écriture nouvelle, technique, en sorte de littérature technique du XXIe siècle qu'on est en train de mettre en place.
Ça ressemble quand même à un langage quelque part naturel, parce qu'il y a une grammaire, il y a un vocabulaire, et absolument, en fait, n'importe quelle personne, y passant du temps, peut apprendre, absolument, à écrire du code ou
mais,
à le comprendre.
Mais tu fais très bien de les dire, en fait, parce que tu mais il ne faut pas non plus se sentir rebouté par les codes voilà. sources. C'est la même chose que dans la littérature. Hein. Vous savez, on utilise tous les français, alors moi avec un peu d'accent, mais je veux dire, normalement, on utilise tous les langues françaises. Pourtant, il y a des textes qui sont très faciles à lire, il y a des textes qui sont beaucoup plus compliqués, donc il faut y passer du temps pour comprendre ce que ça veut dire. Et dans les cas des programmes, c'est un peu similaire. Donc il y a des programmes qui sont très simples à aborder et des programmes qui sont plus complexes, qui nécessitent plus de temps, comprendre des notions plus avancées. Mais disons, c'est quand même à la portée, pas de tout le monde, mais je veux dire, si on avait mis un peu d'énergie, on arrive à comprendre ce qui se passe derrière. Donc, et c'est vraiment une production humaine.
Donc ce premier point, je te laisse continuer, c'est l'importance du code source dans le domaine, quand on parle de logiciel.
Absolument.
Et donc, ça sera l'un des points centraux de Software Heritage.
Absolument.
Je te laisse poursuivre.
Et donc là, la question, c'est qu'on s'est aperçu qu'effectivement, dans notre monde, et c'était très surprenant, parce que tu vois, je peux poutrer tous ces, là, les auditeurs ne peuvent pas les voir, mais moi, j'ai un peu la barbe blanche, là, je commence à avoir un certain âge. N'empêche, comme informaticien, je pense toujours au futur, on est toujours projeté vers le futur. On a du mal à se confronter avec l'idée de perdre, des disparitions, des morts, des échecs, voilà, des pertes d'informations. Donc on réfléchit pas trop, on est toujours dans la dynamique de construire des choses nouvelles. Mais après, si on se pose un instant, on se rend compte qu'il y a énormément de cette connaissance, énormément de logiciels qu'on a construits, des codes sources qu'on a écrits, qui sont en réalité un danger. Personne ne s'occupe vraiment de les préserver, de les protéger, de les indexer, de les rendre facilement disponibles. Il y a énormément d'initiatives pour archiver des informations numériques. Donc, par exemple, l'Internet Archive, qui est une initiative magnifique.
Donc, c'est archive.org ou archive.org. Voilà.
Ça est parti il y a plus de 20 ans, hein, lancé par Bruce Terkel. Il archive les webs. Dans les pages web qu'on connaît. Il y a d'autres initiatives qui essaient d'archiver des vidéos, qui essaient d'archiver même des exécutables des logiciels. Internet Archive fait ça aussi un peu. Donc on archive tout ce que vous voulez dans le monde numérique, sauf, et c'était ça qui était surprenant, les points de départ du projet, sauf les codes sources, qui est quand même la brique fondamentale de la révolution numérique dans laquelle on vit aujourd'hui. C'était étonnant quand on s'est aperçu de ça, et d'ailleurs on s'est aperçu de façon un peu...
En fait, peut-être que les gens... pensait qu'en fait, comme le code source était dupliqué sur plein de machines, en fait, il ne pourrait jamais disparaître. Peut-être
voilà,
que les gens pensaient ça.
Mais tout ça, les mêmes arguments, on peut le faire pour la vidéo, pour les images, oui. etc. Pourquoi les archiver ? Ils sont bien dupliqués sur l'ordinateur de quelqu'un. Et non, mais non, l'archivage, c'est on a tendance à confondre plusieurs activités qui sont très importantes. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais qui est importante en termes de terminologie. Mais quand on développe du logiciel, souvent aujourd'hui, quand on fait du logiciel libre, on travaille de façon collaborative, en réalité... on a besoin d'infrastructures qui font trois choses différentes. Donc, il y a un premier type d'infrastructures qui sont ce qu'on appelle souvent les forges logicielles. Ce sont des endroits dans lesquels une communauté de développeurs travaille de façon collaborative pour mettre à point un logiciel. On les fait évoluer. On travaille ensemble, on commente, on décide, on trouve les erreurs, on les corrige, etc. etc. C'est très dynamique. Donc, ça, ce sont les plateformes de développement. À un certain moment, on peut dire, tiens, cette version du logiciel-là est quand même la version stable, celle qu'on veut vraiment distribuer, que tout le monde puisse la réutiliser facilement, etc. Donc, à ce moment-là, on a envie de les diffuser, de les packager, de les rendre plus facilement accessibles à tout le monde. Et là, on passe dans une deuxième catégorie des plateformes qui sont normalement des plateformes de distribution. Et après, il y a un troisième type de plateforme qui n'existait pas et qui sont des plateformes d'archivage. C'est quoi un archive ? C'est un endroit dans lequel quand on a versé un objet dedans, on a déposé un objet dedans, ben on repasse 6 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 5 ans après, si on est tous vivants, et on retrouve les mêmes objets. Donc, ce sont trois missions très différentes.
Je vais juste préciser par rapport aux personnes qui écoutent régulièrement l'émission qu'on a parlé notamment des distributions GNU Linux il y a... alors, une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, notamment avec Nicolas Dandrimont qui travaille avec toi sur Software Heritage, et que sur les forges logicielles, on en a parlé plusieurs fois, alors pas d'un point de vue technique, mais on en a parlé dans le cadre du projet de loi, le projet de directive européenne sur le droit d'auteur, qui peut mettre justement en danger ces forges logicielles. Vous retrouvez ces références sur le site de l'April, podcast et transcription. Je te laisse poursuivre, Roberto.
Merci. Et donc là, finalement, ce qui manquait dans les panoramas, c'était une plateforme qui fasse vraiment l'archivage de ces logiciels. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et en regardant un peu plus, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y a plein de logiciels, il y a plein de codes sources de logiciels qui sont disponibles. Cela dit, on n'a pas un vrai catalogue. Donc, ils sont éparpillés sur plein de ces autres plateformes, soit les plateformes de développement, soit sur les plateformes de distribution. On ne sait pas où chercher. Donc, la meilleure approche, en général, c'est un moteur de recherche, demander à un copain à la machine à café, où est-ce que j'ai trouvé telle librairie pour faire telle bibliothèque pour faire telle application. Et après, on a découvert qu'effectivement, il n'y avait pas d'archives. Et toi, Fred, par exemple, quand on a commencé ça, parce qu'après, si tu as bien fait de mentionner les 30 juin 2016, c'est le moment où on a annoncé les projets de façon publique. Annoncé les projets de façon publique. Mais
le projet avait commencé avant.
Les projets avaient commencé bien avant. Donc, c'était plutôt les premières idées ont commencé à circuler dans l'été 2014.
Donc 2 ans avant, en fait.
2 ans avant.
Donc quand il y a l'annonce de l'INRIA, vous avez déjà depuis 2 ans commencé à travailler, vous avez commencé déjà à archiver des logiciels. Et, tu te souviens, au moment de l'annonce de l'INRIA, combien il y avait déjà
Je pense que c'était sous les communiqués de presse, on avait déjà archivé peut-être un milliard de fichiers sources différents.
Un milliard de fichiers sources, d'accord.
Okay. Et qui est quand même remarquable, hein, ce sont des fichiers sources tous différents, uniques. Mais alors, il faut savoir que justement dans cette période dans laquelle on était en mode un peu sous-marin, parce qu'on ne voulait pas... Je déteste vendre du slideware, je veux vendre de la fumée.
Du slideware, alors en français, on traduit ça comment ?
Je ne sais pas comment on traduit ça.
C'est-à-dire uniquement des diaporamas avec
des listes à points. Et après, voilà. On ne sait pas comment c'est fait.
Voilà,
on ne
sait pas comment c'est fait, d'accord.
Voilà. Moi, je préfère arriver avec un prototype, montrer les choses qui fonctionnent. Donc là, on avait mis en place une petite équipe, commencé à construire un peu de mes prototypes pour donner de la crédibilité à ce qu'on faisait. Et c'était une démarche pas évidente. Mais toi, dans cette période-là, on était en souterrain, c'est-à-dire entre 2014 et 2016, il y a eu deux événements qui ont montré clairement pourquoi c'était important d'avoir un archive. Parce que comme tu dis, plein de gens ils se disent « Bof, mais pourquoi faire un archive? Après tout, il y a plein de copies à droite à gauche. »
Bah oui, c'est sur Internet.
On les met sur Internet, on les trouve, etc. Ben, il faut savoir qu'au mois de mars 2015, c'est assez intéressant, il y avait deux plateformes de développement très populaires à l'époque, une qui s'appelait Gitorius et l'autre qui était Google Code, hein, qui n'a même pas exactement la même quantité d'argent derrière, mais c'était très populaire les deux. Sous Gitorius, il y avait à peu près 120 000 projets des développements logiciels. Sous Google Code, il y avait 1,5 million. Et au mois de mars 2015, il y a deux annonces. D'un côté, l'annonce de Gitorius qui s'est fait racheter par une autre entreprise qui est GitLab. Et donc, comme il y a ces rachats-là, ils décident de fermer l'ancienne forge Gitorius. Ils ne font pas des transferts des données. Hein. Donc, ils ont juste donné une annonce.
Ils ferment sans les plus laisser accès, c'est ça ?
Sans plus laisser accès. Et ils disent tout simplement aux gens, bah, écoutez, on ne va quand même pas maintenir deux plateformes. Vous avez quand même 3 semaines pour tout transférer. Après, on ferme, quoi. Alors, ça a duré un peu plus que 3 semaines, heureusement, si les gens ont un peu protesté. Mais vous voyez un peu les topos. Et maintenant, effectivement, c'est fermé. Si vous avez regardé la design, il n'y a plus rien. Et en parallèle, Google avait annoncé que, bon, bref, il y avait d'autres solutions, que Google Code n'était plus forcément justifié à maintenir. Ça, c'est leur décision, hein, tout leur droit de faire ce qu'ils veulent. C'était mis à disposition de façon gratuite. Gratuite, mais pas libre, justement. Et là, c'était 1,5 million de projets qui étaient mis en danger, sauf que Google est un peu plus seigneurial, donc il a donné...
Ils ont laissé plus de temps ? Un an.
Un an, et pas 3 semaines. Et ils ont quand même gardé une sorte de version d'archive dans un coin. Donc, ça, c'est arrivé un peu à point nommé, parce qu'il montrait que les messages qu'on envoyait, c'est-à-dire c'est important de construire une archive. Qu'est-ce que c'est un archive ? C'est vraiment une plateforme de la finalité, l'archivage, et pas autre chose. C'était nécessaire. Donc, après ces deux événements, c'est devenu relativement clair pour tout le monde que c'était nécessaire d'y aller dans cette direction-là. Mais tu vois, la troisième chose qu'on avait observée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, non seulement les logiciels sont au cœur de toute la transformation numérique de notre société, mais les logiciels libres sont au cœur des logiciels qui transforment notre société. Presque toutes les entreprises utilisent du logiciel libre de façon massive encore aujourd'hui. Donc, il est devenu super important, par exemple, de se doter d'une plateforme qui permette d'analyser systématiquement les codes sources de ces logiciels pour essayer de repérer les erreurs, les vulnérabilités, rendre plus facile l'analyse des codes, aider les développeurs à mieux réutiliser leurs codes, etc. Et pour ça, on a besoin d'une plateforme commune qu'on n'a jamais réussi à construire avant. Enfin, par exemple, j'ai plein de mes amis qui sont dans le monde de la physique. Un de mes copains est parti aux États-Unis il y a très longtemps, s'occupe d'un gros projet de télescope spatial. Donc, je suis très admiratif de mes collègues en physique qui sont capables de mobiliser des ressources très conséquentes. Là, on parle des milliards ou dizaines de milliards d'euros partout pour chercher à comprendre l'origine de l'univers, regarder les étoiles, regarder tout infiniment petit. Alors, ça, c'est super important. Hein. Je n'ai rien contre. Au contraire, je suis très admiratif du fait qu'ils arrivent à le faire. Par contre, nous, dans le monde de l'informatique, qui est pourtant le moteur de la transformation numérique, jusque-là, on a été un peu incapable de fédérer les mêmes types d'efforts pour avoir une plateforme commune qu'on puisse, de façon mutualisée, réutiliser pour travailler ensemble pour améliorer la qualité des logiciels que nous développons. Évidemment, chaque grosse entreprise a son propre système interne. Dans les mondes associatifs, chacun essaye de mettre en place son propre outil technique sous tel ou tel autre endroit. Mais les rêves, ça serait d'arriver à faire quelque chose comme les CERN pour les recherches sur le nucléaire ou les grands réseaux des télescopes spatiaux pour explorer les galaxies. Ben, nous, on a besoin de l'infrastructure pour explorer la galaxie du logiciel aujourd'hui et ça n'existait pas. Donc, c'était vraiment ces trois constats. Pas de catalogue, pas d'archives, pas d'infrastructure de recherche. La situation n'était pas idéale. Donc, il fallait essayer de faire quelque chose. Et donc, en mettant en place les projets Software Heritage, on essaye, très humblement, hein, parce qu'on n'est pas Google, on n'a pas des dizaines de milliards comme certains de mes copains qui travaillent ailleurs, mais on essaye très humblement de construire une réponse à ces trois besoins. Et de les faire en essayant de mettre de son côté tout les atouts pour minimiser les risques que le projet échoue, c'est-à-dire pour maximiser les
chances de succès.
Chances de succès
si tu Alors, tu dis « on ». Donc, le projet a été annoncé par l'INRIA, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es détaché à l'INRIA donc,
tout à fait.
Quelques années. Mais alors, qui est ce « on » C'est-à-dire, qui a lancé ce projet en dehors de l'INRIA, s'il y en a d'autres, qui sont les partenaires, comment est financé ce projet. Tu as parlé d'une équipe, alors est-ce que c'est une équipe de... Je pense que tu as une équipe de, je sais pas, 500 personnes pour travailler avec toi.
Ah oui, j'aimerais bien.
Donc c'est...
C'est dans le monde de l'informatique, comme tout c'est bien. Très souvent, les révolutions, on les fait un tout petit nombre.
Voilà, donc
on grandit plus tard.
C'est quoi l'équipe Software Heritage? Voilà, essaie de nous expliquer qui est ce
nom. Alors tout ça est né, et tu avais mentionné l'IRIL, effectivement, dans cette structure qu'on avait mis en place en 2010 pour essayer de tisser des liens entre des communautés de développeurs, des entreprises, des chercheurs qui s'intéressent aux problèmes nouveaux, scientifiques qui viennent quand on fait du développement des logiciels libres. Dans l'été 2014, autour de la machine à café, c'est qu'on dit souvent que les développeurs sont des machines qui convertissent du café en code, hein, mais des fois, on les convertit en idées plutôt que des codes directement.
Ou des pizzas en code,
voilà,
des fois.
Des pizzas, ou des boissons socialisantes quelconques, hein, ça dépend, n'est pas nécessaire de prendre la caféine tout le temps. Mais là, on discutait des plein de choses. Donc, à partir d'autres idées, d'autres projets de recherche qu'on avait en tête, là, on s'est aperçu qu'il y avait ces problèmes. Et donc, on a passé quand même plusieurs mois à discuter à plusieurs. Donc, c'était moi à l'origine, il y avait Guillaume Rousseau, il y avait Stefano Zacchiroli, il y avait d'autres personnes qui sont greffées dessous petit à petit. Et on a identifié les problèmes, on a écrit une sorte de position, notes d'opportunité, on pourrait dire, qui faisait un bilan de la situation, parce que même si les problèmes existent, ça ne veut pas dire que nous sommes capables
de les résoudre,
n'est-ce pas? Donc la question est de se dire, bon, le problème est là, est-ce que vraiment on a les rangs solides pour essayer d'aller dans cette direction-là, et comment on peut faire, qu'est-ce qui existe? Et sous la base de cette note-là, on avait pensé qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose de bien avec un peu de ressources initiales. Avec ça, j'étais allé voir les directeurs d'INRIA à l'époque, qui était Antoine Petit. Et là, il faut dire, effectivement, ça fait partie de la chance des fois. Donc, il a été convaincu de l'opportunité de cette mission. Et donc, il a pris la décision de donner cette impulsion initiale. Quand on dit « on », il y a des gens qui ont des idées, mais toi, des idées... Sans les ressources pour les implémenter, il y en a plein dans les tiroirs. Hein.
Donc, le soutien du directeur a été une grande aide, évidemment.
Était un grand atout, mais aussi toute l'institution. L'INRIA est une institution qui, à l'origine, avait été capable, il y a 22 ans, de soutenir les lancements de W3C, qui est le World Wide Web Consortium, qui est le consortium mondial qui maintient les standards du web et qui a permis au web de devenir ce qu'il est devenu maintenant. Donc, ils ont déjà montré leur capacité de soutenir des projets sur le long terme, et de façon partenariale, pas en disant c'est à moi,
tout seul,
c'est l'INRIA, mais en disant ok, on travaille à plusieurs. Donc ça, c'était un peu les débuts. Là, on a commencé à avoir un peu de ressources pour travailler. Quand je dis un peu de ressources, c'était un ingénieur, hein. Mais après, c'était Antoine Dumont qu'on avait recruté comme un premier ingénieur. Après, il y a Nicolas Dendrimont qui est arrivé sous la semaine passée, qui nous rejoint quelques mois après. Et là, on a commencé un petit peu à construire. Mais la mission dès le départ était de ne pas être tout seul, de ne pas être juste INRIA. Il fallait avoir d'autres partenaires autour. Et donc là, c'était un travail énorme. Si tu regardes l'historique, on n'est pas encore public. Hein. On était en train de parler de 2015, là, avant l'annonce en 2016. Et là, on essaye de contacter plein d'entités. Donc la Free Software Foundation, on a contacté l'Open Source Initiative, on a contacté Creative Commons, on a contacté des sociétés savantes françaises, européennes, internationales, on a contacté des fondations comme la Fondation Linux, la Fondation Eclipse, plein d'autres institutions comme ça, pour leur dire qu'est-ce qu'on allait faire, pour savoir s'ils allaient nous
soutenir. S'ils voulaient soutenir, participer.
Et donc, là, on a obtenu un soutien qui était important, mais qui était un soutien moral, pas financier. Il faut quand même payer le développeur à fin de mois. Ça ne suffit pas d'être un soutien moral. Mais c'est très important parce que...
En tout cas, ces structures qui sont des structures importantes dans le monde du logiciel libre...
Exactement.
On considérait que ce projet était fondamental. Donc, il fallait le soutenir. Au moins moralement, déjà.
Et donc là, si tu vas, par exemple, sur les sites de Sortwedge d'aujourd'hui, www.sortwedge.org, tu vas regarder dans la partie soutien. Dans le soutien, il y a des témoignages. Ces témoignages, il y a une cinquantaine de lettres officielles de tout un tas d'entités diverses et variées qui disent pourquoi ils considèrent que le sujet est important et pourquoi le projet est structurant pour eux. Là, on avait déjà commencé à avoir des premiers contacts avec l'UNESCO. Voilà, c'est parce que c'est quand même une mission universelle. C'était bien et naturel de travailler avec eux. Mais là, ça ne suffisait pas. Il fallait chercher des partenaires qui partagent la charge financière d'un tel projet avec l'INRIA, dont la vocation est de lancer les projets, mais pas quand même de les maintenir pendant 50 ans en payant tout seul. Donc, ce n'est pas soutenable. Et ce n'est pas souhaitable non plus. C'est-à-dire, si tu veux minimiser les risques des
pour la pérennité du projet, il faut avoir plusieurs partenaires.
Ouais. Et donc là, c'est ça qui ça devient paradoxal, parce que là, on avait contacté quand même, je ne vais pas donner des noms, mais un certain nombre d'acteurs dans les grandes entreprises qui utilisent massivement du logiciel libre, même des grands acteurs du logiciel libre industriel. Mais grande surprise, au mois de juin, au moment où il fallait devenir public, personne de cela n'avait répondu présent. Peut-être qu'ils considèrent que développer du logiciel libre, ça suffit, ce n'est pas la peine de s'occuper de le maintenir sur le long terme. Et à ma grande surprise, c'était par contre Microsoft qui était devenu présent.
Alors, donc tu as renoué les liens avec Microsoft à cette
époque-là. Et ça, c'était drôle, parce que je n'aurais jamais dit il y a 20 ans que je me serais retrouvé à Redmond, à Seattle, au siège de Microsoft, avec du top management de Microsoft, pour leur dire pourquoi c'était intéressant de soutenir tel projet. Mais c'était quand même une expérience intéressante, parce que là, j'ai découvert un Microsoft qui n'est pas tout à fait les mêmes que j'avais connu il y a 20 ans. Donc il y a eu un changement des directions complet, énormément. J'ai découvert qu'il y a, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je pense que c'est de facile.
Nous sommes en direct, je te préviens.
Je ne vais pas les dire, mais il y avait un nombre très conséquent d'ingénieurs à Microsoft déjà en 2015 qui travaillaient en faisant seulement du logiciel libre. Après, c'est devenu public. En l'été 2016, Microsoft était devenu les premiers contributeurs à des projets logiciels libres sous GitHub, qui était à la grande surprise de tout le monde, c'est devant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a les droits d'échanger d'idées, n'est-ce pas, de temps à l'autre. Donc, au moins sur la partie technique.
Au moins partiellement, on va dire.
Je vais venir. Au moins sur la partie technique, développement technique, stratégie industrielle à long terme, ils ont vraiment changé d'attitude complètement. Et après, il reste tout un tas d'autres choses sur lesquelles on pourrait débattre longuement. Mais disons, restons sur la partie positive. Donc, on a retrouvé un point d'intérêt commun, et donc ils ont été les premiers acteurs industriels à répondre présent. Par contre, les deuxièmes acteurs qu'on avait mentionnés, l'archive nationale de l'Académie des sciences hollandaise, c'est une institution publique, et donc c'était tout à fait naturel de les retrouver à nos côtés, parce que leur mission, c'est archiver les données de la recherche en Hollande. Ils ont énormément de demandes de la part des chercheurs qui disent « Bon, très bien, archiver les données, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec mes logiciels? Où est-ce que je mets mes codes sources ?» Ils avaient des demandes comme ça, ils ne savaient pas exactement comment les traiter. Quand ils ont découvert ce qu'on faisait dans SoftWedge, ils ont sauté immédiatement sur l'occasion en disant « Il faut qu'on travaille ensemble, mais non, on travaille dans un projet européen ensemble, par exemple. » Donc, c'était naturel de trouver ces deux-là. Mais ça ne suffisait pas, il fallait élargir. Donc, si vous regardez sur les sites aujourd'hui, il y a un certain nombre de sponsors qui sont arrivés. On s'est retrouvé Intel aussi, qui est devenu sponsor. On a retrouvé GitHub, évidemment. Donc, on a
une plateforme d'hébergement GitHub, de code.
Qui est une plateforme de développement des codes. Donc,
et une société aux Pays-Bas, si je me souviens bien.
Non, GitHub est à San Francisco.
San Francisco, d'accord.
Oui. Et a été racheté par ailleurs. Donc, c'est les mondes qui incroyables. À l'inverse, donc, ça a été racheté par Microsoft cet été pour 7 milliards de dollars. C'est assez intéressant.
Et tu parlais de GitHub, excuse-moi.
GitHub, oui, tout
d'accord.
À fait.
Je crois que c'était GitLab, excuse-moi.
Non, GitLab, c'est autre chose.
Oui.
Oui, oui, on a des contacts avec GitLab oui. aussi, donc on a archivé aussi GitLab. Et donc, on a élargi petit à petit l'ensemble des partenaires, des sponsors, qui sont tous des mécènes. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ce sont des donations. Il n'y a pas des contreparties. Donc, ils donnent vraiment des financements qui servent à faire grandir les projets parce qu'ils trouvent...
Donc, c'est de la contribution financière ou est-ce que c'est aussi de la contribution humaine avec la mise à disposition de personnel?
Pour l'instant, c'est essentiellement de la contribution
d'accord.
financière. Donc, il n'y a pas de mise à disposition de personnel. Mise à disposition de personnel, c'est compliqué, non?
Ça aurait pu être, mais
ça commence à arriver. C'est-à-dire, on commence à avoir des contributions qui viennent de certaines des entreprises, mais pas vraiment au personnel qui est mis chez nous.
Et donc, ça permet de financer une équipe de combien de personnes aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, si tu regardes sur les sites web de SoftWedge, tu trouveras, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que tu vas trouver probablement 14-15 photos. Hein, donc, peut-être un peu plus parce que sur les sites web, on a mis aussi les conseils scientifiques. Et donc, ça fait quand même une dizaine de personnes à temps plein qui travaillent sur les projets. Donc, on a un peu grandi. Hein, de l'époque, on était deux, trois.
La machine à café, c'est un peu agrandi.
La machine à café est toujours là. Mais bon, bref, c'est un peu grandi. Et on est accueillis dans de très bonnes conditions chez INRIA pour pouvoir travailler sur les projets.
Mais donc, l'équipe est physiquement, toutes les personnes sont
ici à Paris.
À Paris.
Dans les locaux d'INRIA, pour l'instant, accueillis là. Ce n'est pas forcément la position définitive. Mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que les 10 à temps plein qui sont là maintenant, c'est seulement maintenant qu'on est arrivé à 10, on a grandi petit à petit. on fait quand même un travail qui est énorme par rapport à... C'est-à-dire, on peut le voir comme beaucoup, mais en réalité, on est tout petit par rapport à la mission monstre qu'on s'est donnée. Oui. Donc, effectivement, il y a tout un tas de questions à se poser. C'est-à-dire, quelle garantie d'y arriver à long terme, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir travailler sur tout ça. Mais je dois dire quand même, la première étape est d'avoir... toutes les personnes qui sont dans l'équipe qui sont extrêmement motivées pour travailler là-dedans. Alors, Nicolas, qui est arrivé la semaine passée, c'est un ancien acteur du monde du logiciel libre. Stéphane Zacchirol, il était le leader du projet de Debian pendant 3 ans. Ouais. C'est un chercheur magnifique. Il y a d'autres personnes qui sont motivées. Donc, des fois, il n'y a pas que l'argent qui fonctionne. Hein. Des fois, il y a une vraie motivation et c'est ça qui aide beaucoup.
Eh ben, c'est une bonne conclusion pour cette première partie d'émission. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Mountains par Cud. It's the Bund, excusez-moi, et on revient juste après ça. Vous êtes de retour sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons d'écouter Mountains par Cud Itzbund, qui est disponible en licence Creative Commons partage à l'identique. J'en profite pour rappeler que toutes les musiques que nous diffusons sont librement partageables, y compris pour des usages commerciaux. Vous retrouvez la référence sur le site de l'April, donc april.org. Je suis toujours en compagnie de Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique et directeur de l'initiative Software Heritage. Nous allons poursuivre la discussion. Nous avons parlé avant la pause musicale un petit peu d'où venait le projet, les raisons pour lancer ce projet, où ce projet en est, où cette initiative en est aujourd'hui, avec une équipe certes réduite, mais de gens très très motivés et de libristes de longue date. On a cité plusieurs noms. Maintenant, on va parler un petit peu du fonctionnement de Software Heritage d'un point de vue technique et puis du futur. Donc peut-être première question, Roberto, le Software Heritage, c'est une archive. Donc tout à l'heure, tu disais que le but, c'était de garantir la pérennité de ces codes sources pour un patrimoine culturel, économique, industriel et scientifique. Mais alors, cette archive, elle est hébergée sur les internets, comme on dit, quelque part. Est-ce qu'elle est sur plusieurs sites? Comment techniquement ça fonctionne?
Effectivement, c'est une très bonne question. Et quand on réfléchit à un projet conservatoire, on se place dans une logique de long terme. La question de comment maintenir l'information à long terme est cruciale. Alors, il y avait essentiellement deux choix qu'on pouvait faire au début. Un premier choix, ça aurait été de dire on construit un super data center, un centre de données ultra sécurisé, complètement...
Une solution à la française, quoi.
C'est pas à la française, c'est pas le truc. Et voilà, on prend les meilleurs ingénieurs du monde, on cache tout, et on dit à tout le monde, circulez, il n'y a rien à voir, on a le meilleur du monde, on ne sera jamais piraté, on ne perdra jamais les données, on ne fera jamais d'erreurs, etc. Alors, à nouveau, comme j'ai un peu des poils blancs dans la barbe, je sais très bien qu'en général, ce type d'approche marche peu. Hein. Donc, j'ai dit, au moins, je ne suis pas capable de faire fonctionner comme ça. Donc, on a préféré prendre une stratégie différente, qui est de dire, on sait qu'il y aura des erreurs, on sait qu'il y aura des pertes de données, on sait qu'il y aura des problèmes. Donc, tu peux avoir un centre de données qui brûle, il peut avoir un tremblement de terre, il peut avoir un pirate qui rentre dedans, qui détruit des données, on peut avoir des problèmes. C'est inévitable, ça fait partie de la vie. Donc, il faut structurer les projets de telle façon qu'ils résistent à ces types d'erreurs, hein, qu'ils soient résilients sur le long terme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la base de notre stratégie est, un, de faire en sorte que toute l'infrastructure qu'on construit nous soit entièrement faite en logiciel libre pour rendre plus facile à d'autres de la répliquer ailleurs. Deux, d'avoir un réseau des miroirs à un niveau planétaire dans lesquels l'ensemble des données que nous collectons est réparti et distribué. Et là, on utilise en particulier une terminologie qui est un peu particulière dans notre projet. On ne l'a pas formalisé, mais on peut la partager déjà aujourd'hui. On utilise le terme « copie » pour une copie entière de toutes les données qui sont dans l'archive, mais qui est sous notre responsabilité. Et donc, par exemple, aujourd'hui, Software Heritage dispose des 3 copies de l'archive. Ce sont 2 qui sont dans les locaux IRIA chez nous, et 1 qui est sur une plateforme Azure qui est sponsorisée par Microsoft.
Donc c'est les mêmes données.
C'est les mêmes données, mais sur 3
infrastructures. Sur 3 infrastructures physiques différentes.
Différentes, mais toutes les 3 infrastructures sont sous notre contrôle. Le contrôle de l'organisation Software aujourd'hui. Donc, l'effet que ça soit à 3 endroits physiquement différents et pas forcément la même technologie, parce que toi, sur Azure, même si c'est une base Debian, en réalité, bon, la techno derrière les machines, etc., c'est un autre endroit que chez nous. C'est un peu rassurant. Mais imagine qu'on devienne tous fous, les 10 dans l'équipe, et on décide de tout détruire, de brûler tout, meurt sans son avec tous les Philistéens, comme on dit, on pourrait les faire. Et donc, il faut quand même se protéger de ces dommages-là. Et donc, là, on a besoin de ce qu'on appelle des miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est un miroir ? Un miroir, pour nous, c'est une copie, mais qui est sous les contrôles administratifs et techniques de quelqu'un d'autre. C'est une entité qui n'est pas Software Heritage, mais avec qui, évidemment, on a passé des accords pour des questions d'éthique, juridique, etc., mais qui n'est pas nous. Et donc là, c'était dans notre plan depuis le départ. Et là, en décembre passé, il y a quelques semaines, on a annoncé qu'on a signé les premiers accords pour la création d'un miroir. Et alors, ça sera en Suède. Ça serait porté par une société qui s'appelle Force ID. Et donc, c'est pas encore fait. La partie technique, ça a développé. Mais au moins, l'accord est là. Et on met les premières pierres de ces réseaux des miroirs qui vont nous protéger de la perte des données. Et alors, c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui. Tu avais mentionné la réforme du droit d'auteur. Il y a plusieurs dangers qui guettent un projet comme le nôtre. Il y a des dangers techniques. Par exemple, tu as cassé un disque, tu as perdu des choses, tout est trompé dans un logiciel qui a corrompu toutes les données. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il y a des risques d'une certaine façon plus subtils, plus néfastes, qui sont des risques juridiques. Donc, il se peut qu'un miroir ou une copie de l'archive se trouve dans un pays ou dans une zone géographique dans lequel, à un moment donné, sont passés des textes des lois qui rendent difficile, voire impossible, voire illégal, de faire ces travaux d'archivage. Et c'est effectivement ce qui est en train d'arriver avec cette fameuse réforme du droit d'auteur, un article 13 qui oblige toutes les plateformes qui partagent du contenu couvert par les droits d'auteur de mettre en place des filtres avec des autorisations, des ayants droit qui est très... Donc on ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Je précise qu'on en parlera la semaine prochaine avec Anne-Catherine Laurin qui travaille pour le groupe des Verts au Parlement européen. Parce que cette semaine, il y a une négociation interministérielle au niveau européen qui se déroule. Donc, on en saura plus à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, on fera un point là-dessus.
Absolument. Et donc, effectivement, ces débats-là, ça nous a pris, nous, côté Software Edge, pas mal de temps. Parce qu'on les voyait comme un danger pour les travaux qu'on est en train de faire. C'est un vrai danger. Et donc, l'effet d'avoir des miroirs dans d'autres juridictions, ça protège aussi de ces risques juridiques, il n'y a pas seulement les risques techniques. Donc c'est en fait, ça c'est l'objectif.
C'est l'objectif.
Il faut y arriver, donc ça prend un peu de temps d'y arriver.
Jusqu'à... Mais donc le principe technique, pour qu'on va, on va le répéter pour que les personnes le comprennent bien, donc il y a trois archives sous le contrôle du projet Software Heritage, dont deux qui sont sur une infrastructure INRIA, une infrastructure Azure Microsoft, et en plus de cela, il y a un principe de miroir sur lequel Software Heritage n'a pas d'accès, on va dire, direct ou de contrôle.
À l'écriture.
À part un contrat. Et là, le premier projet de miroir, donc c'est FossID. Alors, FossID, ça veut dire Free c'est and Open Source Software ou
non,
ça veut
c'est,
dire...
c'est une entreprise qui est en Suède qui fait de l'analyse des codes pour des questions de licence.
D'accord, donc ils sont intéressés. Donc, on voit d'ailleurs l'intérêt du projet, c'est des gens qui sont intéressés aussi par rapport à l'analyse de code, qui est un point très important. On pourrait imaginer que des universités soient intéressées pour les étudiants, pour mettre à disposition.
Par exemple.
Parce qu'on sait très bien que quand on a pris l'informatique tous les deux, bon, toi peut-être un petit peu avant moi, comme tu le dis, avec ta barbe un peu blanche, la meilleure façon souvent d'apprendre, c'est de regarder ce qui a été fait par d'autres personnes. Donc des universités pourraient être intéressées par cette masse de code disponible. Ah, d'ailleurs, j'ai une question avant de poursuivre sur la partie archive miroir. Est-ce que c'est que des logiciels libres, est-ce que c'est que des codes sources de logiciels libres qui sont hébergés dans le projet, ou est-ce que ça peut être des codes sources d'autres logiciels?
Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, en réalité, je vais même généraliser la question. La question est de savoir comment on décide qu'est-ce qui mérite d'être archivé dans l'archive des Software Heritage. Et effectivement, la position qu'on a prise dans Software Heritage, c'est quelque chose qui fait un peu dresser les cheveux sous la tête quand j'en parle avec des gens qui sont habitués de l'archivage traditionnel, que ce soit dans des bibliothèques ailleurs. Nous, on a pris une position très particulière. On essaye d'archiver tous les codes sources qui sont publiquement disponibles, c'est-à-dire auxquels on peut avoir accès. Donc, on ne filtre pas spécialement sur le fait qu'ils soient des beaux logiciels ou des logiciels pas très beaux, ou que la licence permette explicitement la redistribution, donc qu'ils soient vraiment des logiciels libres, ou que ça soit juste des codes qui ont été mis à disposition, dont la licence n'est pas super claire, etc.
Mais elle permet au moins de faire la copie.
Au moins de faire la copie.
Voilà.
Et l'idéal, ça serait à terme d'arriver à avoir vraiment tous les logiciels, même les anciens, parce que si tu veux, les logiciels qui sont propriétaires aujourd'hui, tant qu'on ne change pas encore une fois
on n'étend pas le droit d'auteur
au-delà de ce
qui est raisonnable, ce qui est déjà le cas, oui. Voilà. Nous sommes d'accord.
Et normalement, au bout des 70 ans, ils deviennent domaine public. Donc au moins, essayer de les
collecter. Après la mort de l'auteur.
Oui. En réalité, pour les logiciels industriels, c'est à partir de leur mise sous les commerces.
Ah, pour les logiciels industriels, d'accord.
Oui, pour les logiciels industriels. Et effectivement, pour le moment des auteurs, là, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, ça serait mieux de les avoir, question de pouvoir les mettre à disposition plus tard. Et là, j'aurais plein d'anecdotes à raconter, mais on ne veut pas y rentrer maintenant.
Oui, parce que sinon, on n'aura pas le temps dans l'émission. Ce sera une deuxième émission.
Voilà.
Donc, c'est tout code, en fait, qui est disponible sur Internet.
On essaie de les collecter. Et maintenant, on a ouvert plein de pistes. C'est-à-dire, techniquement, je vais donner quelques éléments techniques supplémentaires.
Vas-y.
Pour les grandes plateformes de développement, comme GitHub, qui est très populaire aujourd'hui, ou GitLab, ou même la Forge INRIA, ou même Framagit, qui est la forge mise à disposition par Framasoft ici en France, ce qu'on fait, on met en place un mécanisme de moissonnage automatique. C'est-à-dire, on va collecter toutes les données, tous les logiciels qui sont disponibles là-dessous, et on les intègre automatiquement. Par contre, on a aussi rajouté des pistes pour pouvoir, de façon explicite, déposer des logiciels, par exemple des logiciels développés dans le cadre de la recherche, de recherche académique, pouvoir les déposer. Là, on a fait un partenariat avec un portail national qui s'appelle HAL. Et après, on a aussi ouvert un service.
HAL.
HAL. Oui. Donc, c'est une sorte de portail open access pour l'accès ouvert aux publications. Et maintenant, il y a un mécanisme pour déposer aussi du code scientifique dedans. Et plus récemment, on a ouvert un mécanisme qu'on appelle... passer à l'anglais Save Code Now, donc c'est possible d'aller
sauvegarder votre code maintenant.
Maintenant, donc c'est possible de nous indiquer qu'il y a certains endroits dans lesquels il y a du code important, et donc en nous indiquant cette piste-là, après nous, on les rajoute au moissonneur.
Oui, parce qu'en fait, évidemment, Software Heritage ne peut pas avoir connaissance de tout le code qui existe sur Internet, enfin, ça paraît compliqué. J'ai une question sur les plateformes que tu as citées, d'hébergement de logiciels. Mmh. Est-ce que ces plateformes donnent un accès complet, exhaustif à l'ensemble des codes qui sont hébergés? Est-ce que Software Heritage a une certitude de pouvoir en fait récupérer tout le code qu'héberge ces plateformes d'un point de vue technique?
D'un point de vue technique, la réponse est oui. Disons, techniquement, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais oui, on peut y arriver. Et par exemple, tout ce qui est disponible publiquement sous GitLab ou sous GitHub, etc., techniquement, on pourrait être capable d'obtenir absolument tout et d'être à jour même très très rapidement. Après, il ne faut pas oublier hein, qu'on est une petite équipe, qu'on a commencé avec des ressources relativement limitées. Donc, si on avait des milliards, on ferait beaucoup plus. On n'a pas de milliards.
Ma question, ce n'est pas forcément sur l'équipe, c'est sur
Est-ce qu'il y a un filtre de côté qui nous empêche de l'obtenir?
Oui, ou est-ce que la plateforme d'hébergement propose déjà une liste exhaustive de ces projets en disant, bah voilà, là, c'est facile, c'est
ça,
de récupérer.
Effectivement, ces plateformes plus récentes comme GitLab ou GitHub, effectivement fournissent une interface accessible pour même des machines, ce qu'on appelle des API, hein, des interfaces de programmation qui permettent de lister les contenus. Donc on a au moins accès à la liste des contenus qui sont disponibles. Et après, si on peut suivre les fils d'événements, on peut télécharger les choses de façon plutôt raisonnable. Des anciennes plateformes comme SourceForge qui existaient déjà il y a 20 ans et qui sont un peu...
Sur le déclin.
Sur le déclin, mais il y a encore des logiciels très importants qui sont développés dedans. Par contre, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas une interface qui permet de lister les contenus. Donc là, c'est assez compliqué. Il faut aller travailler avec eux pour obtenir des choses. Et on ne l'a pas encore fait. Ça fait partie de la roadmap. Mais c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose comme résultat.
Mais ça pourrait être un effort de SourceForge ou des personnes qui maintiennent SourceForge de proposer
ça. Parce que
c'est
interface.
C'est peut-être que quand ils ont créé ce genre de plateforme, ils sont pas dit en tête que tiens, il y a un Roberto Di Cosmo qui arriverait un jour pour pouvoir archiver tout ce qu'il y a dessus, et donc ils n'ont pas proposé ce simple information sur l'ensemble des projets qui est disponible sur la plateforme. Donc c'est à ces structures-là de faire ce travail.
Oui, et là, au passage, je profite pour dire merci toi à la Doulact. On a travaillé avec...
Alors l'Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales.
Voilà, très
françaises.
Bien, je vois que tu te rappelles l'acronyme, c'est super. Et qui a aidé à développer une sorte de plugin, un greffon qui a été rajouté sur la technologie des forges qui s'appelle Fusion Forge, qui est une évolution des sources forges, et qui fait en sorte que maintenant il est possible de moissonner les contenus qui sont sur une instance de Fusion Forge, en particulier celle de la Doulact, met en place ça. Mais toi, donc, ça fait partie de ces travaux collaboratifs dans lesquels, je vais essayer juste d'arriver à dire ça clairement, la mission qu'on s'est donné est quand même énorme et herculéenne, et on n'y arrivera jamais si on le fait tout seul. Donc toute la stratégie du projet est de rendre facile et possible à tout le monde de participer.
Alors, tu parles de la Doulact. Le 8 janvier, on recevait Laurent Joubert et Mathilde Bras de la DINSIC, donc la Direction interministérielle du numérique et de la société de l'information et de la communication. Là, j'ai un petit doute sur l'acronyme, mais en tout cas, on va dire la Direction informatique de l'État. Et Laurent Joubert avait annoncé qu'il y avait un partenariat qui se créait entre la DINSIC et Software Heritage pour que Software Heritage archive les codes sources publiés par l'administration.
Absolument. Et ça, c'est l'objectif. L'objectif. Donc, encore une fois, l'idée est, est-ce que dans l'État français, normalement, il y a une obligation d'archivage des données publiques, en particulier, donc il y a des archives nationaux, et voilà. Maintenant qu'on passe dans le monde numérique, il faut avoir des archives numériques. Il y a tout un tas d'initiatives pour archiver plein d'informations numériques de l'État français. Pour ce qui concerne les codes sources des logiciels, l'idée est que tout ça soit archivé dans Software Heritage, qui est une plateforme qui n'archive pas seulement les codes sources de l'administration française, mais aussi les codes sources de l'administration française par la fin d'un FER 42. L'idée, c'est de les remettre ensemble et de travailler en bonne entente avec les services de l'État pour faire en sorte que les différentes plateformes de développement qui sont un peu éparpillées dans les différents ministères, différents endroits, soient toutes tracées et indexées qui permettent l'archivage systématique dans Software Heritage.
Tout à l'heure, tu as dit que quand le projet a été lancé en 2016, il y avait, si je me souviens bien, 1 milliard de codes sources ou de lignes de...
Milliard des fichiers.
De fichiers. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des statistiques sur le nombre de projets qui sont archivés par mois pour donner une ordre d'idée de la progression?
On est très logiciel libre, très transparent, très tout ouvert. Donc, si tu vas sur le site web qui est www.softwareedge.org/archive, donc tu vois dans l'archive là-dedans, tu auras des jolis graphiques qui sont à jour, hein, donc qui te montrent. Maintenant, on doit être à 88 ou 89 millions de projets indexés, à peu près 5,5 milliards des fichiers sources uniques. Et il y a des jolis graphiques qui te montrent comment ça évolue dans le temps.
Donc, comme on a Internet et que j'ai un ordinateur devant moi, effectivement. Alors, les fichiers sources, c'est 5 milliards, visiblement. Ça représente 23 millions de personnes différentes, 88 millions de projets. Et on regarde et on voit un certain nombre de plateformes qui sont automatiquement archivées. Donc, tout à l'heure, tu as cité GitLab, GitHub. Il y a aussi Framagit que tu as cité, Debian, le projet GNU. Et puis d'autres projets. Donc c'est sur archive.softwareheritage.org. www.laconcerverie.org. Donc c'est une grosse progression.
Absolument. Voilà.
Et je suppose que ça a un impact, peut-être, on parlait tout à l'heure des données, sur la taille de l'archive. Alors d'ailleurs, j'ai une question un peu, peut-être un peu technique, le temps passe, mais est-ce que vous avez pour la conservation de ces fichiers, qui viennent pour beaucoup en fait, de plateformes d'hébergement qui utilisent Git, donc est-ce que vous êtes parti sur la même architecture technique ou est-ce que vous avez développé quelque chose de spécifique pour Software Heritage?
Alors c'est une très bonne question. Alors toi, l'idée à nouveau, c'est qu'il faut se placer dans une logique de long terme. Donc l'idée est d'essayer de ne pas réinventer les choses qui existent, parce que tu réinventes encore des standards différents, c'est un peu compliqué. Mais par contre, essayer de réutiliser les meilleurs qui existent à chaque moment donné. Donc en particulier, c'est l'architecture technique, les modèles des données qui est derrière l'archive de Software Heritage est essentiellement les mêmes modèles de données qui est derrière Git, mais avec une grosse différence, c'est qu'on utilise ces mêmes modèles des données pour tous les projets mélangés. Donc effectivement, peu importe d'où vient un fichier source, un répertoire, un commit, un release, etc., on mélange tout dans un énorme graphe dans lequel, s'il y a un bout de projet qui a déjà été utilisé dans un endroit et on les trouve à un deuxième endroit, on ne les copie pas, on ne les duplique pas, on garde juste les traces que c'est le même objet.
Qui permet de sauvegarder l'espace disque.
Qui permet de réduire l'occupation de l'espace disque de façon monstrueuse. Donc, c'est-à-dire, maintenant, tout ce que vous voyez sous l'archive fait un peu plus des 200 téraoctets des données et quelques téraoctets des bases des données pour les graphes centrales, ce qui est microscopique par rapport à
ce que c'est archive.
Parce qu'il y a énormément de duplications dans les travaux de développement de logiciels. On réutilise énormément des fichiers qui existent déjà dans d'autres projets, on fait ce qu'on appelle des forks, etc. Donc nous, on a un modèle d'archivage qui est structuré exactement pour passer à l'échelle de ces mécanismes, des forks, des duplications diverses et variées.
Un fork, c'est qu'on part d'un projet et on va en faire une version modifiée. Donc évidemment, la version modifiée va avoir une bonne partie du code original parce que c'est le principe et c'est aussi l'un des principes du logiciel libre. Je précise juste que Git, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est en gros un logiciel de gestion de version de le décentralisé qui est très très utilisé, qui date de peut-être une quinzaine ou d'une vingtaine d'années maintenant.
Je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est 2005-2006. C'est
initialement développé par Linus Torvalds, qui est aussi le développeur original du noyau Linux et qui est toujours, je crois, à la tête du développement du noyau. Donc 200 teraoctets, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, par rapport à ce que ça sauvegarde, c'est...
Mais attention, quand même, ça grandit.
Ça
va grandir. Donc on a besoin
même si on peut espérer peut-être qu'une bonne partie des codes déjà existants ayant déjà été archivés. Alors, le temps passe vite à la radio et le sujet est passionnant, mais tout à l'heure, tu parlais des problèmes juridiques, dont notamment... la directive droit d'auteur, et c'est vrai que passé, on a dû aussi passer pas mal de temps ensemble et avec d'autres à se battre pour nos libertés, que ce soit contre les brevets logiciels ou autres trucs dans le genre. Quels sont les deux grands défis, on va dire, techniques et juridiques, peut-être, s'il y en a encore, pour Software Heritage aujourd'hui?
Sur la partie technique, effectivement, là, je prends une petite parenthèse, mais ça vaut vraiment la peine. Au moment où on a lancé les projets, on s'est dit, on construit cette infrastructure, on utilise un peu la technologie qu'on connaît aujourd'hui, on essaye d'utiliser la meilleure, bien sûr, et avec des gens motivés et des très bons niveaux. Mais après, on utilisera tout ça pour faire de la recherche sur ces informations. Et après, on s'aperçoit petit à petit que l'infrastructure même que nous sommes en train de construire est un projet de recherche lui-même, parce qu'il y a tout un tas de défis techniques qu'on n'imaginait pas tout à fait au moment où on a commencé. Finalement, c'est une architecture distribuée dans laquelle on stocke une énorme quantité de fichiers qui sont relativement petits, donc ce n'est pas exactement ce qui est nécessairement standard dans le monde industriel aujourd'hui. Il y a des questions de réplication, des sûretés, donc il y a énormément d'indexation dans ces graphes très 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 grands, comment construire des moteurs de recherche là-dessous. Effectivement, il y a énormément de défis. Il y en a plein. En même temps, c'est un problème amusant parce que ça permet de faire venir, j'espère, d'attirer un certain nombre d'équipes de recherche qui cherchent des problèmes intéressants. Là, il y en a plein.
Ils ont une base de données à gérer qui est monstrueuse, donc c'est intéressant.
Il y a plein de problèmes. Il faut juste savoir, donc moi, c'est bien à l'académie, que c'est dans le monde académique, on prend du temps. Donc, entre les moments où tu intéresses quelqu'un au problème, le moment où les gens commencent à travailler, il se passe déjà un an, peut-être deux, et qu'il y a un résultat que tu puisses industrialiser, mettre dedans, et ça peut être 4 ou 5 ans. Mais ce n'est pas grave, parce que nous, on est dans une logique de long terme. Donc, l'idée, c'est créer vraiment une activité de recherche autour qui améliore l'infrastructure petit à petit. Voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer trop dans la partie super technique.
Et la partie juridique, est-ce qu'il y a des... À part la directive droit d'auteur, qui est... projet de directive droit d'auteur, qui est un gros problème juridique, mais dont on espère que ça sera terminé bientôt, est-ce qu'il y a d'autres défis juridiques ?
Mais je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment des défis juridiques, c'est plutôt organisationnel. Toi. Donc, je reviens un peu à cette idée. Donc, c'est place dans une logique des longs termes. Comment construire quelque chose qui est vraiment résistant aux risques sur les longs termes ? On l'avait déjà dit avant, on veut avoir plusieurs partenaires. On ne veut pas construire une entreprise qui peut être rachetée ou peut faire faillite. On ne veut pas dépendre d'un seul acteur qui peut changer d'avis, même s'il est très, très riche, comme c'était le cas de Google quand il a fermé Google Co. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question des stratégies.
Ça permet de rappeler que même si c'est des grandes structures comme Google ou autre, des fois, ça peut fermer. Ah jour au lendemain.
Alors, c'est
on peut le rappeler
décision.
À pas mal de c'est personnes qui, décision, dont la vie informatique dépend de ces géants.
C'est une décision qui est prise par une gestion, mais ils ont souvent leurs raisons. Mais je veux dire, ce qui est important d'avoir une structure qui contrôle les projets, qui pilote les projets, avec exactement la mission de faire seulement ce qui est dit dans les projets, c'est-à-dire collecter, préserver, rendre disponibles les codes sources de toute la planète. Et donc là, on réfléchit maintenant à la mise en place d'une stratégie pour devenir pérenne. Donc au début, c'était un projet hébergé par INRIA qui continue de nous soutenir. Maintenant, on est dans une phase de transition. On commence à construire une infrastructure juridique et une fondation abritée. Et à terme, on veut arriver sous l'équivalent d'une structure des fondations dans lesquelles on peut avoir justement plusieurs partenaires qui travaillent ensemble avec une dotation pérenne pour faire en sorte que les projets soient viables très, 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 à très, très long terme et que moi, je puisse partir à la retraite le plus vite possible en en empêchant tranquillement sans avoir à courir après les sponsors tous les deux minutes. Mais donc là, construire vraiment la bonne structure, ça prend effectivement du temps. Mettre en place la bonne organisation pour que ça fonctionne bien, ça prend du temps. Et une autre partie de la stratégie qui est très intéressante, toi, quand on construit une infrastructure comme Sort of Heritage, on ne s'intéresse pas seulement au monde de l'industrie, on ne s'intéresse pas seulement au monde de la recherche, on ne s'intéresse pas seulement au monde de la culture, on ne s'intéresse pas seulement au monde associatif ou des administrations publiques. Et en réalité, on construit une infrastructure qui est au service de tous. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à amener autour de la table, comme tu disais, le cas de la DINSIC est très important, des administrations publiques, d'amener autour de la table des entreprises, d'amener autour de la table des entités comme l'UNESCO qui sont intéressées à préserver les patrimoines logiciels, mais aussi énormément d'autres contributeurs. Donc, par exemple, toi, l'année passée, on a fait l'effort de mettre en place sur les sites web du projet, là, des sorties, il y a un gros bouton rouge qui dit « Donate ». Donc, même si quelqu'un veut donner 10 euros pour soutenir les projets, c'est bienvenu, c'est pas très grave, toi. C'est, même si c'est petit. L'important, c'est diversifier au maximum
les sources de financement.
Les sources de financement pour minimiser les risques engendrés par l'effet qu'un ou l'autre des partenaires partent. Et l'autre chose aussi, c'est trouver un discours qui soit suffisamment audible auprès des entreprises, auprès d'autres entités qui soutiennent ces projets. Donc, heureusement, la France a sauvé la face parce que maintenant, on a la Société Générale parmi les sponsors. Donc, au moins, un grand acteur français qui est présent. Par contre, c'est vrai, ça aurait été sympa d'avoir d'autres acteurs qui utilisent énormément et massivement des logiciels libres qui deviennent partenaires du projet. Finalement, c'est un super projet mondial qui a la cabine de pilotage à Paris. C'est assez étonnant de ne pas trouver d'autres.
Parce que finalement, si je reviens effectivement à ce que tu disais au début, les grands acteurs du logiciel libre que tu as contacté au début n'ont toujours pas embarqué
toujours pas
le projet.
Présent. Quoi.
Et est-ce que ces structures ont donné une raison, une explication ou
C'est toujours compliqué. Quand tu demandes aux gens de donner de l'argent gratuitement, tout c'est bien, c'est pas facile. Ils ont toujours d'autres choses. Ils peuvent financer des événements dans lesquels il y a leur logo qui apparaît. Ils peuvent financer d'autres choses. Mais là, on est en train vraiment de construire une infrastructure en service de tous. Donc, il faut un petit peu de vision pour être capable de voir que l'investissement initial, ça va rapporter beaucoup plus dans l'intérêt commun. Et là, paradoxalement, à nouveau, c'est assez étonné. Mais toi, tu trouves Microsoft et Intel, qui étaient quand même mes ennemis historiques hein, il y a 20 ans. En étant les deux premiers qui ont répondu présent, c'était surprenant. Mais au moins, ils montrent qu'ils ont une vision. Après, la Société Générale, c'était un super partenariat.
Mais la Société Générale semble avoir un investissement dans le libre très, très fort.
Incroyable. Oui. Donc, ils sont vraiment en train d'échanger une stratégie à l'interne dans laquelle ils mettent en place une stratégie pour le logiciel libre qui est remarquable. Et donc, dans ces cadres-là, l'effet qu'ils soutiennent le projet, ça me semble génial. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Il faudrait que bien d'autres participent. Et on peut participer en donnant 10 euros, mais on peut aussi participer en allant en rajouter dans les sauver les codes aujourd'hui, les bons pointeurs vers les...
En proposant des sites sur lesquels il y a un code à archiver.
Et on peut aussi, pour des gens qui veulent développer et contribuer, contribuer à construire les briques logicielles qui aident à tracer d'autres plateformes. C'est-à-dire, on fait vraiment un effort maintenant pour essayer de documenter les codes, rendre facile la participation. Ce n'est pas évident, hein, c'est une grosse infrastructure. Mais là aussi, la contribution de la communauté est fondamentale pour que le projet prenne son essor à long terme.
Ben écoute, Roberto, je te remercie. Ça me paraît être une belle conclusion, un appel à soutien, en espérant que plein de gens y répondront et au premier, les structures qui développent des logiciels libres participent à ce projet. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on passe à la pause musicale et qu'on change pas tellement de sujet, vu qu'on va parler un peu d'éducation après
Oui, je vais juste dire ça, c'est que quand même, je peux rajouter un élément. Pour moi, c'est très émouvant de me retrouver un peu dans la cabine de pilotage de ces projets avec d'autres. Je ne suis pas tout seul, hein, il y a Stéphano, il y en a plein d'autres qui aident. Parce que c'est un moment magique. L'informatique, pour moi, c'est une discipline qui m'a toujours passionné. Et là, on est à un point charnière dans cette histoire parce que le logiciel est né il y a une cinquantaine d'années, allez, à peu près 50-60 ans. On a l'occasion unique de pouvoir reconstruire l'histoire de l'informatique, l'histoire de tous les logiciels qui sont arrivés aujourd'hui, et d'avoir une infrastructure qui va permettre pour les futurs de faciliter le développement des logiciels. On est à un point charnière, et je pense que tu as, en commençant il y a 4 ans et en mettant en place ce qui est sur Twitter aujourd'hui, on montre que c'est possible d'y arriver. Je pense que c'est la chose la plus passionnante, ça ne m'a jamais arrivé de faire, et j'espère vraiment que d'autres personnes se passionnent de toute cette infrastructure, et qu'on comprenne bien, ce n'est pas les projets de Roberto Di Cosmo, ce n'est pas les projets de l'équipe SoftWare, ce n'est pas les projets d'INRIA, ce n'est même pas les projets des sponsors de projets. C'est les projets de tout le monde, de toute une communauté qui trouve qu'il y a quelque chose qui est commun, et donc le plus grand nombre de personnes qui s'approprient les projets, le mieux ça sera dans l'intérêt de tous.
En tout cas, j'espère qu'on a contribué modestement à faire connaître ce projet culturel, industriel, de recherche, d'éducation. Donc, le point d'entrée, c'est softwareheritage.org. Vous pouvez contribuer, Roberto, à proposer pas mal de pistes de contribution. Et on aura sans doute l'occasion de refaire un point dans quelques mois sur la radio ou ailleurs. Donc, on va maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter, mais Roberto reste avec nous parce que le sujet de l'éducation l'intéresse évidemment. Nous allons écouter, alors le morceau s'appelle « Quand nous sommes à la taverne » et le groupe s'appelle Kylie Moss. Et on revient juste après ça.
Quand nous sommes à la taverne et que le vent coule à flot, sachez pour votre gouverne qu'il n'y en a jamais trop. Il n'y a jamais trop de vin, il n'y a jamais trop de bière, il n'y a jamais trop de bonnes choses que Dieu a mis dans nos verres. Quand nous sommes à la taverne, les gens nous regardent loin. Que nous sommes des pocheurs, des paumés, mais des moins que rien. Moi je méfie des gens, savoir de ceux qui disent monsieur pas. Très bien connu que les tyrans et les bigots sont instinants. Que je sache, chez une buvette, pas de l'eau claire ni du coca. C'est du bon vin qu'on a servi durant les noces d'un cana. Et quand l'heure est arrivée là, un affreux trépas, c'est bien le vin qu'il a béni durant son dernier repas. Prima pronum matavini, ex sac bibunt libertini. Semel bibunt pro captivis, quas tec bibunt arpro vivis, quater pro Christianis cuntis, qui qui est pro fidelibus defunctis, ex est pro soloribus vanis, septi est pro militibus silvanis, octi est pro fratibus perversis, noni est pro macis dispersis, deci est pro navigantibus, undeci est pro discordantibus, due deci est pro penitentibus, tre deci est pro iterage. Un coup à la mémoire de ce disparu dans le noir.
ce point vraiment j'insiste. Peu importe la couleur, tant que le brevet vient de la sauveur. Buvons un bon aligoté, une radieuse ou un saké. Vodka, whisky, curaçao, du calvin ou de douze ans. Du champagne ou une trappiste, pour encore un tour de piste. Single malt ou au sein, il est temps de s'enivrer. Gavir, straminer ou à quelque chose qui casse la vague. Et sans remords, bien plus qu'il n'ait de raison. Le pouvoir de la bouteille est plus fort que celui du canon.
Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Nous avons écouté l'émission, le morceau Quand nous sommes à la taverne. L'artiste, enfin le groupe s'appelle Kylie Moss. Et j'en profiterai pour préciser qu'évidemment, il faut consommer avec modération, surtout quand dans la bouteille et il y a de l'alcool. Voilà. Nous allons aborder le dernier sujet. Nous allons faire un point rapide sur le projet de loi pour une école de la confiance et plus précisément sur des amendements visant à inscrire la priorité au logiciel libre dans l'éducation. Alors, normalement, au téléphone est avec nous Jean-François Clerc. Jean-François, est-ce que tu es là ?
Oui, bonjour Fred.
Alors, bonjour Jean-François. Donc, Jean-François Clerc, tu es professeur de mathématiques en collège REP+ à Paris et tu es responsable du groupe numérique au SNES, qui est le principal syndicat du secondaire. Alors, je t'ai invité à intervenir avec deux questions de base, en fait. La première question, je précise que le SNES est depuis longue date en fait, impliqué et un engagement de longue date en faveur des logiciels libres dans l'éducation. Donc, pour quelles raisons le SNES a cet engagement, à la fois dans l'éducation et dans sa pratique syndicale ?
C'est essentiellement parce que, contrairement à ce que disent de nombreux médias, le SNES est quand même un syndicat très progressiste et dès le tournant des années 80, lorsque la micro-informatique est apparue, de très très nombreux enseignants, dont les enseignants du SNES, se sont emparés d'outils informatiques. Et au fur et à mesure que les années ont passé, ils ont développé une expertise, une connaissance. Et ils se sont très rapidement rendus compte, au moment où Microsoft a pris possession, on va dire, du monde de la micro-informatique, bon, il y avait aussi Apple de son côté, qu'on courait quand même vers une forme de marchandisation de l'école, puisque finalement, on a mis très très longtemps à arriver à faire comprendre aux gens qu'il fallait parler de tableur, qu'il fallait parler de traitement de texte, de messagerie électronique, et même maintenant d'ailleurs de moteur de recherche, plutôt que d'employer les noms qu'on utilise traditionnellement parce que c'est l'outil le plus courant à utiliser, de la même manière que dans les années 50, il y avait le frigidaire qui avait remplacé le nom de réfrigérateur. Ensuite, pourquoi le logiciel libre ? Tout simplement parce que le logiciel libre, ça correspond à une philosophie, une façon de penser finalement le monde où on est propriétaire de ce que l'on fait. Et on le met en commun, puisque c'est le principe du libre, hein, le code est ouvert. Et c'était pour nous une façon de se dire que c'était peut-être la meilleure des manières d'amener à ce que les élèves puissent apprendre à un moment ou à un autre l'informatique, en particulier le codage, puisque quand on parle de logiciel libre, il y a quand même cette dimension de codage, et surtout à pouvoir fabriquer par nous-mêmes ou améliorer par nous-mêmes les logiciels de façon à ce qu'ils correspondent à nos besoins pédagogiques. Voilà en gros comment je pourrais présenter les choses.
D'accord. Et c'est un engagement de longue date. Alors je précise aussi que le SNES est membre de l'APRIL. Il y a aussi un autre syndicat qui est membre de l'APRIL, qui est le SGEN CFDT. Et il y a aussi une section du Bas-Rhin du SNU-IPP. FSU, oui, qui est membre de l'APRIL. Donc c'est aussi intéressant parce que c'est relativement récent ces adhésions à l'APRIL en termes de soutien de nos actions, mais ça ne cache pas le fait. Au contraire, ça renforce le fait que ces syndicats, depuis de longues dates, essayent de promouvoir le logiciel libre, à la fois dans leur pratique syndicale et aussi dans l'enseignement. Alors, Aujourd'hui, on va parler assez rapidement parce que la fin de l'émission approche, mais d'un projet de loi donc, qui a été déposé à l'Assemblée nationale début décembre, qui est le projet de loi pour une école de la confiance. Alors évidemment, initialement, le projet de loi pour une école de la confiance ne visait pas spécifiquement le logiciel libre, mais il se trouve que des députés ont déposé des amendements. Alors sans refaire tout l'historique, notamment en commission, là actuellement, et avant que je te repose la deuxième question, actuellement, donc pour qu'on comprenne, le projet de loi a été étudié à l'Assemblée nationale en séance publique. Donc ça a commencé lundi, ça va se poursuivre tout à l'heure à la séance, après la question du gouvernement, donc ça a peut-être commencé. Et en fait, il y a deux types d'amendements qui ont été déposés par des parlementaires pour la séance publique. Il y a un premier type d'amendement donc, qui a été déposé par les députés de la France Insoumise qui vise à imposer l'usage du logiciel libre dans l'éducation. Donc je lis l'amendement, c'est « Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont des logiciels libres ». Donc ça, c'est l'amendement 571. Et de son côté, le groupe communiste et notamment le député Stéphane Peu a déposé deux amendements qui visent à inscrire la priorité au logiciel libre. Donc, ce qui est différent de imposer l'usage du logiciel libre. Donc, je lis l'amendement notamment du 836 de Stéphane Peu. C'est « les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont en priorité des logiciels libres ». Donc on voit deux approches différentes. Nous, l'approche priorité au logiciel libre, c'est celle que l'on défend depuis de nombreuses années, notamment pour gérer la phase de transition nécessaire, parce que, évidemment, dans le monde de l'éducation, malheureusement, Microsoft, Apple et autres sont très présents. Quelle est la position du SNES sur ces deux options, priorité ou imposition du logiciel libre ?
Alors, on ne peut pas imposer. On ne peut absolument pas imposer le logiciel libre pour une bonne et simple raison, c'est qu'il existe un certain nombre de choses qui relèvent de code propriétaire. Je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Pendant des années, les collègues ont développé des petites animations Flash qui sont basées sur Adobe Flash. C'est du code complètement propriétaire. Okay, c'est pas
plus,
du libre.
Qui n'est pas du libre et en plus
c'est
Flash
mis
est
gratuitement à la disposition d'eux, mais ce n'est pas du libre. Donc, on ne peut pas imposer à tout prix le libre, surtout dans une société qui n'est pas encore prête à comment dire, réfléchir publiquement sur la protection des données, hein, comme on l'a vu l'année dernière avec le projet de loi, enfin la loi qui a été votée au moment de l'entrée en vigueur définitive du RGPD. Donc pour nous, il s'agit de donner la priorité au logiciel libre, et de toute façon, il existe aussi un certain nombre de solutions qui ont été développés en code propriétaire et qui n'ont pas leur équivalent dans le monde du libre.
Qui n'ont pas encore
leur
équivalent. Et qui sont
malgré tout utilisés par un certain nombre de collègues.
D'accord. Alors, ça rejoint notre position. Donc je répète, les débats ont lieu en ce moment. Pour les personnes qui nous écoutent, la meilleure façon d'agir, c'est de contacter des parlementaires. Un courriel ou un coup de téléphone, c'est encore plus efficace, avec vos propres arguments pour expliquer pourquoi vous considérez que le logiciel libre doit être prioritaire dans l'éducation. Vous pouvez employer les arguments qui vous parlent. Les parlementaires, les députés sont sensibles à ces questions-là. En termes d'agenda, il est probable que ces amendements seront discutés mercredi ou jeudi parce qu'en fait, ils sont après l'article 24. Donc, c'est en fin vraiment de discussion. Donc, contactez vos parlementaires. En commission, des amendements un peu équivalents avaient été proposés et le ministre Jean-Michel Blanquer avait indiqué qu'en fait, que déjà dans la loi, il y avait un encouragement à utiliser du logiciel libre dans l'administration. Il faut savoir que dans la loi, il y a actuellement une phrase, alors de mémoire, c'est que l'offre logicielle tient compte de l'offre logicielle libre.
C'est pas suffisant.
C'est-à-dire qu'on fait pas une politique avec des encouragements ou une injonction à tenir compte. On fait une politique avec des priorités et donc entamer dès maintenant une démarche de transition vers les logiciels libres en inscrivant donc dans la loi la priorité au logiciel libre et au format ouvert dans l'éducation nationale. Jean-François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ?
Bah, je vois pas trop. En fait, tu as déjà tout dit. Hein, donc,
Non, mais c'est. En fait, on avait relativement peu de temps, enfin, pas peu de temps à consacrer, mais c'est qu'en fait, l'émission se termine bientôt et puis il y avait plusieurs sujets. Mais il était important de parler de ce sujet-là parce que Je suis personnellement convaincu que l'inscription dans la loi de la priorité au logiciel libre n'est qu'une question de temps. Il y a eu déjà des nombreux débats. Alors, pour les personnes qui avaient suivi le projet de loi République numérique en 2016, à l'Assemblée nationale, en séance publique, il y avait un long débat, près de 45 minutes, ce qui est beaucoup sur un seul amendement. Et on voyait qu'il n'y avait pas l'opposition classique qu'on connaissait, mais au contraire, il y avait vraiment des liens qui se faisaient entre députés de différents bords, et le gouvernement de l'époque s'y était opposé. On espère que ce nouveau gouvernement ne s'y opposera pas, parce que par rapport au débat en commission, nous, on a apporté des arguments justement sur la nécessité de la priorité. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a deux types d'amendements qui sont proposés, donc ça va permettre aussi d'avoir un échange intéressant en séance. Donc, c'est plutôt sans doute mercredi ou jeudi, mais je vous encourage à chacun et chacune à contacter des députés. Sur le site de l'April, donc april.org, vous avez une page qui récapitule le dossier, qui précise les amendements et qui vous donne des pistes pour contacter des parlementaires. Donc, écoute, Jean-François, je te remercie de ton intervention et je pense qu'on aura l'occasion prochainement dans l'émission de faire un sujet beaucoup plus général sur le logiciel libre, l'éducation, les formats ouverts, les données personnelles des élèves et des enseignants et enseignantes. Je te remercie, Jean-François, et à bientôt.
Merci beaucoup, Fred. À une prochaine fois.
Alors, l'émission va bientôt se terminer, je vais donc juste faire une petite annonce qui est en lien en fait avec ce sujet-là, tout simplement. Ce week-end à Beauvais auront lieu les PrimeTux Days, donc les journées PrimeTux. Donc PrimeTux, c'est un système d'exploitation complet et libre, donc qui propose un environnement de travail qui est adapté au cycle de l'école primaire. Donc on est toujours dans le domaine de l'école. Donc c'est à Beauvais du samedi 16 février à 10h au dimanche 17 février à 17h. Donc vous retrouvez les informations détaillées sur le site de l'agenda du libre, hein, donc agendadulibre.org. Et évidemment, sur le site de l'agenda libre, vous trouvez tous les événements qui se passent à Paris et ailleurs. Les soirées de contribution au libre, on a parlé tout à l'heure de contribuer à Software Heritage, mais on peut contribuer au projet au libre directement. Les différents apéros, l'occasion de rencontrer les gens. Notre émission se termine. Vous allez bientôt avoir le plaisir d'entendre notre générique de fin qui est Weston de Realaz. Vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utile que nous avons cité aujourd'hui. La page sera mise à jour s'il y a des références qu'on a oubliées. Vous retrouverez aussi sur le site de la radio, donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. On va se retrouver le 19 février, donc enfin mardi prochain à 15h30. Nous parlerons du pacte de la transition avec Aliette Lacroix. Nous parlerons également, nous ferons un point sur la directive droit d'auteur avec Anne-Catherine Laurin qui travaille au Parlement européen pour le groupe des Verts. Et notre sujet principal, et là c'est aussi un grand plaisir, j'aurai le plaisir d'échanger avec Stéphane Bortzmeyer dans le cadre de son livre qu'il vient de publier qui s'appelle Cyberstructure, donc Internet et les droits humains. Je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.